Je vous propose ce matin d'ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, verset 23 jusqu'au verset 27. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 23 à 27. Et nous poursuivons une série de méditations que j'ai intitulée « La prière agissante ». Et plus particulièrement, le titre de ce message ce matin sera « Osons demander à Dieu ». Jean 16, verset 23. Ce sont des paroles de Jésus qui nous dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. » Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Amen. Notre thème est donc la prière agissante. Parce que nous croyons que la prière ne peut pas se réduire à de simples exercices de dévotion spirituelle. La prière doit être efficace parce qu'elle doit atteindre un but. Et à la base de cette prière agissante, il y a ce que nous pouvons appeler la prière de demande. Une prière qui consiste à exposer nos requêtes à Dieu. Il y a 15 jours, je vous disais que ce lieu de prière, cette prière de demande, c'est le temps de l'apprentissage. Nous apprenons à prier en exprimant, et ça c'est un point que je vais développer particulièrement ce matin, exprimer nos prières, ce qui ne consiste pas à informer Dieu, ne nous trompons pas, ni même à développer telle ou telle formule, croyant qu'une formule peut incliner le cœur de Dieu en notre faveur. Mais c'est aussi un lieu d'apprentissage qui consiste à écouter Dieu, à attendre de Dieu et à recevoir de Dieu. Mais parfois, à cause du côté, que vais-je dire, élémentaire, basique de la prière de demande, il arrive qu'en grandissant dans la foi, nous nous orientons vers des formes plus avancées de prière, comme l'intercession, comme l'adoration, comme la méditation, certains diront même le combat spirituel. Et alors, en grandissant dans la foi, nous, il se trouve que nous demandons de moins en moins à Dieu, voire même plus du tout. Seulement en opérant ainsi, nous manquons plusieurs objectifs divins. Et tout d'abord, nous oublions que cela plaît à Dieu quand nous lui demandons quelque chose. Cela lui plaît, parce que c'est dans la nature de Dieu de donner, et encore plus dans sa nature de Père. En négligeant de prier pour demander et recevoir, nous manquons aussi de développer notre foi. Car en demandant à Dieu pour recevoir, nous nous créons des occasions de fortifier notre foi et de mettre notre foi et bien d'autres valeurs spirituelles que nous allons voir, de leur permettre de se développer donc. Mais aussi, en ne demandant pas à Dieu, nous prenons plusieurs risques. Celui de nous appuyer sur notre propre expérience chrétienne, sur nos connaissances, ou alors de compter davantage sur les ressources de l'homme que sur celles de Dieu. Mais nous prenons aussi le risque de passer à côté de ce que Dieu a préparé par avance pour nous. Et souvent, nous disons, mais combien de grâces, de cadeaux célestes restent là-haut parce qu'ils n'ont pas été demandés, réclamés par ceux pour qui ils étaient préparés. Alors ce matin, je veux donc revenir aux bases de la prière et entendre encore le Seigneur nous dire, demandez et vous recevrez. Et peut-être vous posez cette question plus directement, mon ami, mon frère, ma sœur, depuis combien de temps n'as-tu rien demandé à Dieu ? Oh, je ne dis pas ce genre de prière où on dit « Ah Seigneur, ça serait bien, de ceci serait intéressant, ceci serait bien. » Non, je dis de demander sérieusement. Demander avec le désir de recevoir en retour de la part de Dieu. Depuis combien de temps n'as-tu rien demandé au Père ? Alors, pour reprendre le titre de ce message, oserons-nous encore demander à Dieu ? Mon premier point est de dire, il nous faut demander à Dieu parce que cela plaît à Dieu. Les hommes développent toutes sortes d'efforts, parfois harassants, pour parvenir à de piètres résultats. Mais la Bible nous dit, le psalmiste plus particulièrement, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, psaume 127, verset 2. Il en donne autant. Et je dirais même, il en donne plus encore. Pendant leur sommeil, et ça nous parle du repos de la foi, quand nous demandons, Dieu s'occupe. Et il ne désire pas que nous passions notre vie à nous battre pour gagner quelque chose quand lui peut nous l'accorder dans sa grâce. C'est aussi dans la nature divine de donner généreusement. Dieu se plaît à donner. Et jamais nous ne l'importunerons ou jamais nous le prendrons de court parce que nous lui demandons quelque chose. Mais ce qu'il convient, c'est de lui demander. Jésus dit, Dieu donne à ceux qui le lui demandent. Évidemment, Dieu sait ce dont nous avons besoin, mais il attend que nous lui demandions. Et il dit encore, demandez et vous recevrez. Et j'insiste sur la conjonction de coordination et. Demandez et vous recevrez. Ce qui précède le fait de recevoir, c'est de demander. Et il nous faut demander à Dieu pour que nous puissions recevoir de sa part. Il plaît à Dieu de nous donner parce que c'est aussi écrit dans sa nature de Père. Dieu est un Père qui aime donner à ses enfants. C'est vrai qu'un Père partage la joie de son fils ou de sa fille lorsque quelqu'un va lui offrir un cadeau. Mais il y a des choses que seul un père veut donner à ses enfants. Il veut que ce soit lui et pas un autre. Pas simplement parce que c'est son devoir, son rôle, sa condition de père, mais parce que ça fait partie de son expérience de père. Et un père peut assez mal supporter le fait que son fils ou sa fille aille trouver quelqu'un d'autre pour lui demander ce que lui est capable de lui offrir. Eh bien, il en est pareil pour Dieu. Dieu est un Père, c'est notre Père, et en tant que tel, il veut agir envers nous. Il a des choses qu'il a préparées pour nous, et il ne désire pas que ce soit un autre qui nous les donne. C'est son expérience de Père, et il veut que nous les recevions de lui. Et je ne parle pas ici simplement de biens spirituels, mais je parle aussi de biens de cette vie. En toute chose, Dieu veut combler nos vies. Ensuite, demander à Dieu démontre l'estime que nous avons de lui. À qui demandons-nous en premier ? Qui allez-vous trouver ? Peut-être une personne dont vous connaissez les capacités de générosité. Ou une autre qui a la possibilité, le pouvoir, l'influence d'agir. C'est cette personne que vous allez retrouver pour lui poser votre requête. Demandez à Dieu. Démontre donc que nous croyons premièrement qu'il a une âme généreuse. Demandez à Dieu. Démontre aussi que nous croyons qu'il a les capacités pour répondre à notre requête. Et demandez à Dieu lui démontre que nous croyons qu'il nous aime. Jésus l'a dit, le Père lui-même nous aime. Et en lui demandant, nous lui montrons toute l'estime que nous avons de lui. Comme un enfant qui va trouver son père lui demande, pour lui montrer aussi tout l'amour, tout l'attachement et toute l'estime qu'il a de lui. Demander à Dieu lui démontre aussi que nous accordons de la valeur aux choses qu'il nous donne. Jésus dit, Dieu donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Faisons-nous une différence entre ce que les hommes nous donnent et ce que Dieu tient en réserve pour nous? Les mettons-nous au même niveau? Ou croyons-nous que les choses qui viennent de Dieu sont d'une valeur beaucoup plus grande? Comme Jésus le dit, Dieu ne nous trompera pas. Si nous demandons un pain, il ne nous donnera pas une pierre. Un poisson, il ne nous donnera pas un serpent. Un œuf, il ne nous donnera pas un scorpion. Mais il nous donnera de bonnes choses pour notre vie. Alors en demandant à Dieu, au lieu de demander à un homme, au lieu de compter sur mes forces, je montre aussi au Seigneur que ce que je désire dans ma vie, c'est le choix de Dieu. Ce que je désire, c'est le choix de Dieu pour ma vie. Et non pas ce que je désire moi, ou ce que les hommes pourraient me donner. Demandez à Dieu donc, parce que Dieu se plaît à nous donner. Deuxièmement, et ça nous concerne à nous, demandez à Dieu quitte à nous faire, entre guillemets, violence. Parce que parfois, avec le développement de notre expérience chrétienne, il arrive que nous développions des fausses spiritualités. Et tout d'abord, cette fausse attitude qui est celle du surcontentement. Alors, le contentement est une valeur chrétienne importante. L'apôtre Paul dit même qu'elle est une source de richesse, de gain associée avec la piété. Donc, nous devons être des gens contents. Mais quand je parle du surcontentement, je fais allusion à ce genre d'attitude qu'il peut nous arriver de développer, qui est une forme de piété à l'excès. Où certains vont nous dire, Dieu m'aime, j'ai tout ce qu'il me faut. Dieu m'aime, c'est suffisant pour moi. C'est vrai, Dieu nous aime et il nous comble. Mais ne soyons pas plus spirituels que Dieu. Dieu veut nous donner. Et il veut nous donner autant que ce que les hommes ont. Et je ne parle pas là simplement de biens matériels, mais je parle d'amour. Je parle de bonheur, je parle de présence, je parle de valeur spirituelle éternelle. Oui, Dieu nous aime, mais il veut encore nous bénir. Et puis, autre façon d'aborder les choses, il y a ceux qui développent une foi, je dirais, intellectuelle, une foi vidée de sa puissance. C'est la sagesse à l'excès. Et ce genre d'attitude se traduit ainsi, vous savez, j'ai la connaissance, j'ai la parole, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais là encore, c'est une attitude spirituelle qui ne satisfait pas Dieu, même si elle pourrait en avoir les apparences. Parce que ces gens ne voient pas Dieu comme un père, mais comme un maître. Alors, ils ne lui demandent rien. Parce qu'ils pensent que voilà, Dieu a donné des règles, des commandements, des lois, et il faut les appliquer strictement. Mais ce sont des fausses attitudes spirituelles. Parce que ce que Dieu désire, c'est que notre foi soit moins contemplative, moins intellectuelle, mais plus pratique et plus agissante. Dieu se plaît lorsque nous lui demandons quelque chose. Demander à Dieu, c'est aussi refuser un esprit de fatalité. Parce que même quand les hommes et les évidences de la vie nous disent « c'est impossible, c'est fini », nous avons un Dieu à qui tout est possible. Et nous croyons qu'il peut avoir le dernier mot et qu'il aura le dernier mot en toute situation. Alors, mes frères et sœurs, n'acceptons pas de supporter telle ou telle situation, tel ou tel fardeau, quand Dieu est capable d'agir. Ou je ne suis pas en train de dire que Dieu va systématiquement retirer toutes les échardes, tous les fardeaux, toutes les épreuves de notre vie. Il est capable de le faire. Mais dans d'autres situations, c'est vrai que des chrétiens ont traversé cette vie en supportant des fardeaux et des épreuves terribles. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils peuvent demander à Dieu d'être présent avec eux. Et même dans les temps les plus difficiles, le Seigneur transforme la vallée des larmes, la vallée de Baca, en chant de réjouissance. Béni soit son Saint-Nom. Alors il nous faut encore oser demander à Dieu pour recevoir. Au besoin, en se faisant violence. de cette violence dont Jésus parle au sujet de ceux qui savent s'emparer du royaume de Dieu. Faisons-nous violence quant à nos fausses attitudes spirituelles qui souvent cachent une paresse spirituelle. Faisons-nous violence quant à toutes les situations dont on nous dit qu'elles sont inextricables, que nous devons les accepter. Non, faisons-nous violence parce que Dieu est encore capable d'agir. Mettons notre foi en action. Si je prends le langage des évangélistes que vous connaissez bien, ils nous diraient, oui, le ciel regorge de cadeaux extraordinaires. Et ces cadeaux portent nos noms. Mais ce qui est terrible, c'est d'imaginer que ces cadeaux restent dans les ciels parce qu'ils n'ont pas été demandés. Ils nous diraient encore, ces évangélistes, ce livre-là, merveilleuse parole de Dieu, n'est-elle pas le récépissé laissé par le Saint-Esprit pour que nous allions auprès de Dieu réclamer ce qu'il tient en réserve pour nous. Alors, mes frères et sœurs, ne nous endormons pas dans un espèce de confort chrétien qui nous éviterait tout simplement de prier sérieusement et de demander sérieusement à Dieu d'agir dans notre vie. Troisièmement, demandons à Dieu pour développer des vertus spirituelles puissantes. Et c'est là que je veux revenir sur cette notion d'exprimer nos prières. Exprimer nos prières, nos requêtes, ce n'est pas informer Dieu. Avez-vous déjà entendu des prières d'information ? Ah, Dieu l'entend souvent. Il nous arrive d'en entendre. En cas que nous n'étions pas informés, après la prière qui peut des fois durer plusieurs minutes, vous êtes informés de tout, de A à Z. Nous n'avons pas besoin d'informer Dieu. Et c'est certainement quant à ces prières d'information que Jésus a dit, vous savez, ces gens qui multiplient les paroles, il leur dit, ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez, Matthieu 6:8. Pas besoin d'informer Dieu, Dieu sait. Dieu ne veut pas que nous l'informions, mais Dieu veut que nous exprimions notre requête, notre demande, et c'est différent. C'est très différent. Mais exprimer notre requête, ce n'est pas simplement se cacher derrière des formules. Dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, et penser qu'ainsi, ayant dit les bonnes paroles, nous allons être exaucés. Ça aussi, ce n'est pas la prière d'expression. Alors, quelques points importants qui concernent cette prière de demande qui exprime quelque chose auprès de Dieu. Et j'ai développé ces idées en lien avec une expérience qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup parlé, que nous avons vécue avec mon épouse. C'est quelque chose de très simple, mais parce que justement, des fois, la prière de demande s'ancre dans cette réalité quotidienne. Mais ce que nous avons vécu, je l'ai, au fur et à mesure, pas à pas, je l'ai bien réfléchi. Et je vais essayer de vous le partager. Simplement pour vous résumer ce qui nous est arrivé, nous avions notre ancienne voiture. Donc vous voyez, je parle de choses vraiment bassement matérielles. Notre voiture, on l'a achetée il y a quelques années. À l'époque, nous avions une deuxième voiture. Et puis la deuxième voiture, nous ne l'avons plus. On s'est retrouvé avec cette petite voiture, qui est très bien pour la ville, mais dès qu'il s'agit de faire un peu de route, de mettre les enfants, de mettre tous les bagages derrière, oh là là, on n'y arrivait plus. Et elle commençait à prendre du kilométrage, on s'est dit, bon, ça serait quand même bien qu'on pense à la changer. Et puis, ça fait quoi? Ça fait une bonne année qu'on en parle, et puis, bon, on disait peut-être, Seigneur, ce serait bien qu'on puisse changer de voiture. Et c'est là que nous avons commencé à découvrir des réalités spirituelles concernant le fait de demander à Dieu. Et la première des choses qui est importante, c'est de comprendre que la prière de demande exprime une résolution en vue d'une décision. Une résolution. La prière de demande, ce n'est pas l'expression d'une idée subite. Ce n'est pas l'expression d'une convoitise ou d'un caprice passager. Rappelez-vous, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui un jour vont trouver Jésus et qui lui disent « Quand tu seras dans ton royaume, permets que l'un s'assied à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus leur a dit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Ce genre de prière-là, une convoitise, Dieu n'exauce pas. Mais alors, quel genre de prière Dieu exauce ? Il va d'abord exaucer des prières abouties. Pendant plusieurs mois, notre prière à Dieu n'était pas aboutie. Oui, nous voulions une voiture, mais finalement, sans véritablement le vouloir. On se disait, ça serait bien. Mais je me rappelle ce que l'apôtre Jacques écrit, je reconstruis un peu ses paroles, il dit en quelque sorte que l'homme irrésolu ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Et tant que nous sommes irrésolus, que nous disons, Seigneur, ça serait pas mal, ça serait bien, ça serait intéressant, Dieu n'écoute pas. Et il faut que nos prières mûrissent, que notre demande aboutisse, qu'il y ait en quelque sorte un effet de maturation. Autrement dit, qu'on ait bien réfléchi, qu'on ait bien pesé. Quel est notre besoin ? Quelle est notre demande ? Je prends un exemple, celui d'Esther, qui va s'approcher du roi Assuérus. Et elle ne s'est pas approchée au hasard, mais nous savons qu'elle et tout le peuple juif a prié et cherché Dieu pendant 3 jours. Et ensuite, elle s'est approchée du roi et elle a présenté sa requête au roi. Et quand elle l'a exposée, c'était réfléchi. Elle savait ce qu'elle voulait, elle savait où elle irait. Dieu exauce des prières de demande réfléchies, abouties, matures. Dieu exauce aussi des prières de demande qui sont le fruit d'une conviction. Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alors on ne sait pas pourquoi ça a été traduit conviction, alors que partout ailleurs, le mot grec qui est derrière pistis veut dire foi. Tout ce qui n'est pas le produit de la foi est péché, nous dit à cet endroit-là l'apôtre Paul. Conviction, foi. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. Donc il y a une maturation personnelle, mais il y a une maturation spirituelle. Seigneur, que veux-tu exactement ? Toi, qu'est-ce que tu penses de cette chose ? Et donc, il y a tout un temps où nous travaillons à nous mettre en accord avec Dieu, à nous mettre au diapason avec lui, pour arriver finalement à ce que Jean écrit, 1 Jean 5, 14, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quand tout ce travail de maturation est fait, il y a en nous une assurance. Et on sent que le temps est venu de demander à Dieu. Dernière chose sur ce point-là, la prière de demande efficace est le résultat d'un accord. Matthieu 18, 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Je reviens à mon histoire. Peut-être parce que, encore, Esther peut témoigner, j'ai fait des progrès. Au niveau des voitures, j'ai fait beaucoup de progrès. Et je suis rentré dans un repos, une tranquillité. Donc, mais je sentais bien quand même que cette voiture que nous avions, bon, elle commençait à s'approcher de 6 chiffres au compteur. Je me suis dit, bon, ça serait peut-être bien qu'on y réfléchisse. Mais elle, dans sa sagesse, ou dans son hésitation, je ne sais pas, a pris plus de temps pour arriver à me dire oui. Elle réfléchissait, elle me voyait évoluer. Et un jour, lors d'une discussion, je peux dire qu'il y a eu comme un accord. Et on est arrivé à un accord. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont faites très rapidement. Au point qu'elle a vendu notre voiture en 2 heures, et qu'heureusement, le jour même, on avait trouvé l'autre. Mais tout ceci dans ces choses pratiques pour vous montrer ce qu'est exprimer une prière à Dieu. Une résolution, une conviction, un accord avec Dieu, mais aussi sur la terre quand plusieurs sont impliqués dans la demande. La prière de demande, c'est aussi l'expression de notre foi. Non pas la foi comme un ensemble de doctrines, mais la foi comme un don de Dieu que nous devons développer. Chacun a reçu une part de foi, une portion de foi, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12. Cette part de foi, nous devons la développer. Il ne s'agit pas de savoir si tu as reçu plus que moi. Les disciples ont dit « augmente notre foi ». Jésus leur a dit « mais le problème n'est pas là, parce que si votre foi est aussi grande qu'une graine de moutarde, alors vous direz à cet arbre ou à cette montagne de se déraciner ou d'aller se jeter ailleurs ». Le problème, c'est de mettre en pratique notre foi. parce que je suis convaincu que lorsque Dieu nous donne la foi, il nous donne plus qu'une graine de moutarde. Et nous avons suffisamment pour accomplir dans sa grâce des choses merveilleuses. Oui, rien de mieux, mes frères et sœurs, pour entretenir et développer notre foi, je vais choisir ce verbe, que de nous forcer à demander à Dieu. Je dis forcer parce que des fois les mécanismes sont un peu rouillés, tellement nous avons appris finalement à compter sur mon expérience, ma sagesse, ma connaissance. Et Dieu nous dit, remets en marche cette machine-là, remets un peu d'huile de l'esprit dans cette prière de demande. Et tu verras combien ta foi va être fortifiée. Parce que demander à Dieu, c'est véritablement l'expression d'une foi agissante. Mais c'est aussi rentrer dans le repos de Dieu. Car celui qui exprime sa prière à Dieu, sa demande, avec foi, en étant convaincu que Dieu l'a écouté, rentre dans une ferme assurance, dans une ferme attente, rentre dans le repos de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu va agir. Alors que fait-il ? Eh bien, il cesse de s'agiter. Dieu agit. Et il cesse même de prier, sinon pour rendre grâce à Dieu de ce que bientôt il va être exaucé sur cette terre. Enfin, dernier point, la prière de demande nous communique une plus grande connaissance des bontés infinies de Dieu et de toutes ses provisions. En demandant à Dieu, en apprenant à recevoir de lui, nous découvrirons combien Dieu est grand et puissant. Et l'apôtre Paul nous dit, il est celui qui par sa divine puissance peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous savez, il y a ce que nous demandons et puis il y a ce que nous pensons. Et souvent, nous demandons en dessous de ce que nous pensons ou imaginons. Mais Dieu nous dit, attends, il y a ce que tu demandes, il y a ce que tu penses et il y a ce que je peux faire. Je peux faire infiniment plus au-delà de tout ce que tu demandes et même de tout ce que tu penses ou imagines. Alléluia. Voilà la prière que Dieu voudrait nous voir développer. Et ma conclusion est de dire ceci. Nous mettons beaucoup l'accent sur l'intercession, sur le combat spirituel. Pourtant, dans les évangiles ou dans les épîtres, il est moins question d'intercession et de combat spirituel que de demander à Dieu. Il y a plus d'enseignements qui portent sur la prière de demande que sur la prière de combat. Alors je me pose cette question, et Seigneur, peut-être que tu rechercherais, non pas simplement des intercesseurs ou des combattants, peut-être, Seigneur, rechercherais-tu tout simplement des gens qui demandent ? Mais dans nos églises, nous avons plus de gens qui intercèdent ou qui combattent que de gens qui demandent. Apprenons à devenir des demandeurs.